Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu.
Alléluia, 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 amen.
Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière.
Alléluia, alléluia,
alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : Que devons-nous faire ? Jean leur répondait : Celui qui a deux vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner. Pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle.
Acclamons la parole de Dieu.
Par ses exhortations, saint Jean-Baptiste annonçait au peuple la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une traduction de évangile. Qu'y a-t-il donc au cœur de notre évangile? Il y a bien sûr le fait que Dieu se fasse proche de nous. Voilà bien le cœur de la bonne nouvelle. Et dans la première lecture que nous avons entendue, Sophonie nous dit bien « Le Seigneur ton Dieu est en toi ». Voilà la bonne nouvelle, le Seigneur est en nous. Mais qu'y a-t-il d'autre dans ces paroles de saint Jean-Baptiste? Il est présent, il tient à la main la pelle à vanner, pour nettoyer son air à battre le blé, il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera. Est-ce que cela fait aussi partie de la bonne nouvelle ? Autrement dit, Dieu se tient pour le jugement. Il attend pour séparer les bons des mauvais. Le grain, c'est le fruit de nos vies, le fruit de charité, le poids de charité de nos vies. Cela, il viendra le recueillir. Quant à la paille, c'est cette vie sans fruit, cette vie restée sèche en charité, eh bien, elle brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Est-ce cela la bonne nouvelle ? Eh bien oui, je crois. La bonne nouvelle, ce n'est pas le feu qui ne s'éteint pas, c'est que Dieu vient nous juger. Et je vais m'expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire tout d'abord que nous sommes libres. Bien souvent, nous faisons la publicité comme pour attirer à l'église tous les gens qui n'y vont pas. Nous faisons la publicité d'un dieu en caoutchouc, d'un dieu guimauve, tellement gentil que tout le monde y a accès. Même ceux qui, sur terre, nous font les pires misères. Dieu est miséricordieux et il est juste à la fois. Sa justice est miséricorde et sa miséricorde est juste. S'il n'y avait pas de jugement et s'il n'y avait pas la possibilité de l'enfer, eh bien nous ne serions pas libres. Ceux qui refusent l'existence de l'enfer, eh bien, pour moi, ce sont les mêmes qui refusent la possibilité à l'homme d'être libre. Si nous sommes obligés d'aller au ciel, nous irons tous au paradis. Eh bien, il n'y a aucune raison de faire des efforts sur terre. Et comme dit saint Paul, dans ce cas, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et puis, Dieu se moque de nous. Parce que il nous dit, faites le bien, ne faites pas le mal, mais vous êtes libre de faire le mal, alors qu'en fait nous ne le serions pas. Deuxième raison de se réjouir pour cette bonne nouvelle, s'il y a un jugement, c'est que cela veut dire que nos actes ont une valeur aux yeux de Dieu. Deuxième raison de penser que Dieu nous prend au sérieux, nos actes ont une valeur à ses yeux et un poids d'éternité. Nous serons jugés sur nos actes. C'est plein d'espérance parce que nous serons jugés par un Dieu miséricordieux. Ce Dieu d'amour jugera nos vies au poids d'amour qu'elles constituent. Mais c'est bien nos vies qu'il jugera. Et enfin, cela veut dire que la foi qui commence dès maintenant, dès ici-bas, cette foi est appelée à porter des fruits visibles dans notre vie. Dieu ne nous demanderait pas de changer en croyant en lui si la foi n'avait aucune influence sur nos vies. Si tel était le cas, il nous dirait, eh bien, restez comme vous êtes, c'est moi qui me suis un peu trompé dans mes mélanges, dans la création, je vous ai mal proportionné. Non. La foi, c'est ce remède, c'est cette vie divine que Dieu nous donne et que nous pouvons assimiler dès maintenant. Donc, nous sommes capables d'amour. Nous sommes capables de Dieu. Et ça, c'est la grande révélation du christianisme. Si Dieu est exigeant avec nous, c'est que nous sommes capables de lui. Et alors, qu'est-ce que l'enfer ? L'enfer, c'est la vie sans Dieu. L'enfer, c'est ce refus de Dieu qui entraîne une terrible absence de Dieu, une certaine connaissance de Dieu, mais l'impossibilité d'en jouir parce que nous l'avons refusé. Et l'enfer, ça n'est pas qu'une question de choix au moment de notre mort, même si la miséricorde peut tout, mais c'est aussi une question de notre vie. Notre vie nous prépare à l'éternité. C'est peut-être difficile à entendre, mais vous ne seriez pas, peut-être pas très heureux si je vous dis que tel criminel qui a tué l'un de vos proches, eh bien, sans avoir changé le moins du monde, sans même regretter ce qu'il a fait, sera avec vous, à côté de vous, au paradis pour l'éternité. Là, vous vous dites, ah non, pas lui. Peut-être lui, s'il fait ce chemin de conversion. Mais Dieu ne l'obligera pas à l'aimer alors qu'il n'a pas, il n'a pas voulu aimer sur terre. Mais si Dieu se révèle à nous, ça n'est pas pour nous annoncer l'enfer, c'est pour nous annoncer la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'être avec Dieu. C'est d'être comme Dieu, et saint Pierre, dans sa lettre, au chapitre 4, je crois, eh bien, dit, nous serons participants de la nature divine. Nous qui sommes hommes, nous deviendrons Dieu. Et ça n'est pas autre chose que nous préparons avec Noël, accueillir le Seigneur qui vient en nous, accueillir Dieu. Dieu, la nature divine, en la personne de Jésus, en la personne du Verbe, qui se fait homme. C'est tout simplement incroyable. Cette simple affirmation, eh bien, aurait suffi à révolter tous les philosophes Aristote, Platon, tous les philosophes de la culture grecque, parce qu'ils avaient une telle idée de Dieu que Dieu se fît homme, eh bien, c'était impossible. Saint Jean-Baptiste nous dit que notre foi implique d'agir d'une certaine manière, et c'est la question qu'on lui pose à deux reprises dans cet évangile, que devons-nous faire? Au passage, c'est une chose plus importante qu'on ne veut le croire aujourd'hui, que l'agir, j'en parle beaucoup, mais parce que les textes m'en donnent l'occasion, aujourd'hui nous préférons dire, ce qui compte c'est d'être, ce qui compte c'est ce que vous soyez. Vous êtes mauvais autour de vous, vous faites ci et ça, mais peu importe, ce qui compte c'est que tu sois toi-même. Alors certes, soyons nous-mêmes, mais soyons aussi ce que le Seigneur veut que nous soyons. Pas pour nous embêter qu'il nous demande des choses, c'est pour nous montrer un chemin de bonheur. Et donc ce que nous faisons, eh bien, est tout à fait noble. Ce que nous faisons nous fait grandir ou nous rabaisse. Et alors, deux choses que les textes d'aujourd'hui nous suggèrent. Tout d'abord, la joie. Et cette joie, alors c'est bien sûr le thème de ce dimanche, Gaudete, réjouissez-vous, parce que le Seigneur approche, il est déjà là, il est quasiment là. Mais quand on veut consoler quelqu'un, eh bien, on le prend plutôt dans ses bras et on lui dit, essaye de voir les choses du bon côté, qu'est-ce que je peux te dire qui te consolera ? Saint Paul, il s'y prend pas comme ça, il nous donne un ordre. Et il le répète trois fois. Frères, soyez toujours dans la joie. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Vas-y, il est gentil Saint Paul, mais aujourd'hui, j'ai de bonnes raisons d'être triste, j'ai plus de raisons d'être triste que la foi ne m'en donne d'être joyeux. Eh bien, si saint Paul nous en donne cet ordre ou cette injonction, eh bien, c'est que c'est à notre portée. Nous sommes capables de décider d'être joyeux. Parce que nous avons une raison d'être joyeux, c'est cette proximité du Christ, c'est cette vie éternelle qui nous est donnée. La joie, c'est un grand trésor de l'homme. Bien souvent, nous nous arrêtons au plaisir sensible et nous cherchons dans le plaisir sensible une source de joie. Mais nous sommes corps et âme. Le plaisir que Dieu nous donne, qui est un don de Dieu, est fait pour s'épanouir dans la joie. Et le vrai plaisir, c'est celui qui conduit à la joie. C'est celui qui est lié à l'amour. Celui qui est lié au don de soi. Et la joie, la vraie joie, rejaillit en plaisir. Dans la joie, si elle est vraiment humaine, eh bien, nous avons en quelque sorte la perfection du plaisir humain, le plaisir spirituel, mais qui entraîne avec lui aussi notre corps. Deuxième chose qu'implique notre foi, eh bien, la prière. Vous ne croyez pas à la prière? Eh bien, moi non plus. Y a-t-il une personne ici qui soit assez convaincue de l'efficacité de la prière pour fonder toute sa vie sur elle? Alors, je pense que nous aimerions tous être assez convaincus pour cela, mais que si nous l'étions, déjà nous serions plus joyeux, et ensuite nos vies seraient plus transfigurées. Alors je vais vous donner une explication un peu fumeuse de la prière. Je ne m'adresse pas qu'aux fumeurs, mais à tous ceux qui ont déjà vu la fumée. La prière, c'est un peu comme la fumée. La fumée, elle monte au ciel, et même s'il pleut, elle monte au ciel. L'eau n'a aucun pouvoir sur la fumée. Notre prière, c'est un peu la même chose, elle monte à Dieu, quoi qu'il en soit. Et quand il y a le feu dans une maison, eh bien, la fumée s'échappe par les moindres issues. Notre prière a une puissance incroyable pour monter à Dieu. Dans les films, nous voyons les brigands souffler de la fumée sur les faisceaux, sur les lasers, les rayons lasers pour ne pas se faire attraper. La prière, c'est un peu la même chose pour la présence de Dieu. Quand nous prions, eh bien, nous voyons que Dieu est présent et qu'il agit dans notre vie, là où nous ne le voyons pas sans prier. Alors même que la prière, comme la fumée, peut sembler obscure, que parfois elle l'est obscure, mais elle nous révèle le vrai sens des choses. Et enfin, la fumée éloigne les moustiques. Et elle nous protège efficacement des tentations du mal et de notre propre mal, de nos propres défauts. Alors, ce que je viens de dire n'est peut-être pas très convaincant si l'on a une mauvaise expérience de la prière. Je vous donne juste deux raisons qui peuvent faire que notre prière ne porte pas de fruits. La première, c'est que nous ne croyons pas vraiment que Dieu puisse nous exaucer. Alors pour continuer la métaphore du feu, le foyer, la braise, eh bien, est un peu éteinte. Donc il n'y a pas tellement de fumée qui monte vers Dieu.
nous disons, Seigneur, bah, si tu as une petite grâce qui traîne, donne-la moi, mais bon, je crois pas tellement. Je pense pas que tu puisses quoi que ce soit pour moi. Renouvelons notre foi dans la toute-puissance de Dieu. Prions en croyant que ce que nous demandons, nous l'avons déjà obtenu. Deuxième raison qui peut rendre notre prière inefficace, eh bien, c'est que nous ne demandons pas vraiment. Nous sommes comme dans une salle tellement bien fermée que la fumée reste enfermée. Elle ne trouve aucun moyen de sortir. Nous disons au Seigneur, tu peux me donner quelque chose si tu veux. Mais non, rien, j'ai rien demandé. Si nous voulons, il faut supplier. Et saint Paul nous le dit bien. En toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Prions et supplions. Et Dieu exaucera nos demandes. Notre Dieu n'attend qu'une chose, c'est nous combler de ses bienfaits. Il vient même jusqu'à nous en partageant notre faiblesse. Il a répondu bien au-delà de nos espérances à toutes nos prières en s'incarnant. Alors préparons sa venue en étant toujours dans la joie et en faisant monter vers lui nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.